magazine des séries sur Radio Campus Lille.
Mère Grand, félicitations. Remarquable réalisation, mon cher Steve. Tout à fait extra.
Ah, merci, Mère Grand.
Ne me dis rien, ne me dis rien.
Ben, c'est un papillon, bien sûr, c'est pas des
oui, un papillon, voilà, c'est un papillon, c'est ça, j'avais sur la langue.
Mais dis donc, j'ai jamais eu de boiteux à la brigade.
Ah, bon Dieu, on a été pris de vitesse.
Mais qui ça peut être, ça?
Eh, c'est ce qu'il faut trouver.
Bah, écoute, c'est très bien. Ici, tout de même, on a les facilités américaines, tu comprends? Un décor royal, un luxe intégral, des dressing rooms, des bowling, des shopping centers.
Cependant, vos goûts en littérature sont très curieux. Je les trouve un peu surprenants.
Quelle importance, mes goûts de la Vega. Voici une liste des gens que je désire inviter ce soir, Garcia.
Oui, commandant.
Tabata, je voudrais que tu n'oublies pas que grand-mère Stevens et grand-mère Andorra sont très différentes. Elles n'ont rien de commun.
Ça fait 3 jours que je t'ai pas vue. Tu fais exprès?
Ce soir, je t'invite à dîner.
Non, j'étais venu dire un petit bonjour au lieutenant Kramer. Excusez-moi. Merci, monsieur Manix.
Retrouvez les séries cultes des années 60, 70, 80 dans le magazine des séries.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre cet après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre émission consacrée au petit écran. Voici le magazine des séries, Christophe Dandin au micro, accompagné aujourd'hui d'une équipe renforcée. Vous entendrez les interventions de l'incontournable et à l'heure Christophe Villard, accompagné de Pierre Godon, de Dominique Candeil et nous accueillons également un invité en la personne de Laurent Duhamel, un véritable enfant de la télévision. En leur compagnie, nous vous proposerons une émission qui sera structurée en deux temps. Tout d'abord, une première grande et large partie qui sera consacrée au 50e anniversaire de l'émission Samedi est à vous, créée par Guy Lux, qui fut diffusée pour la première fois le 11 janvier 1975 sur TF1, émission co-présentée par Bernard Gollet et Roger Lago, et qui a fait pour beaucoup dans notre téléphilie. Et puis nous intéresserons aussi à la deuxième saison de la série Andorre, actuellement diffusée par Disney+. Et de commencer ce programme pour se mettre dans le tempo de Samedi est à vous avec une partition musicale composée par John Barry pour une série télévisée qui a connu un certain succès. Elle a sa réputation, ça s'appelle Les Mystères d'Orson Welles et pourtant, paradoxalement, il n'y a eu que quelques épisodes qui étaient diffusés à l'époque de Samedi est à vous. Je vous propose d'entendre le thème d'ouverture, on se retrouve en quelques instants et un excellent après-midi à l'écoute du magazine des séries.
Thank you.
Et voilà, chers amis, nous sommes dans le grand bain. Le thème que vous entendez, c'est celui de « Samedi est à vous ». Voilà, c'est ce qui ouvre l'émission vers 14h30. Et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir cette édition spéciale du magazine des séries. Alors j'ai grand plaisir à retrouver Christophe Villard. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
À tes côtés, Pierre Godon. Bonjour Pierre.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Dominique Candaille est également de la partie en ce samedi après-midi. Bonjour Dominique.
Il y a quelques années à cette heure-là, on était en train de devant nos télés tous.
Voilà. Effectivement. C'était effectivement une sacrée époque. Et puis nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Laurent Duhamel. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Voilà. C'est à vous.
Alors sur ce, donc, on va profiter de cette édition pour, comment dirais-je, vous proposer, oui, on peut le dire, un panorama somme toute assez large de ce qu'a été l'émission Samedi est à vous pendant quasiment un an et demi, mais de rappeler qu'avant Samedi est à vous, il y a eu La Une est à vous qui avait été lancée par Guy Lux et Bernard Gollet donc à partir de septembre 73, et puis au hasard des modifications que le paysage télévisuel français a connues, eh bien, Exit, l'ORTF, Bonjour, trois chaînes de télévision, et puis sur TF1, eh bien, le 11 janvier 75, commençait donc Samedi est à vous. On reprenait une formule identique qui avait déjà fait ses preuves et qui allait se poursuivre jusqu'en octobre 76. Et ça va donc être une bonne opportunité pour, comment dirais-je, essayer un petit peu de partager avec vous, l'espace de quelques instants, les souvenirs de ce vaste programme accompagné de quelques extraits musicaux qui seront bien sûr avantageusement choisis. Mais pour l'instant, donc, je vais faire un premier tour de piste et, comment dirais-je, en profiter aussi parce que c'est la joie du direct. Hein. Je viens de découvrir que le micro de l'invité vient de faire tilt. Voilà, c'est ce qu'on appelle un gremlin. Donc, il va y avoir un déplacement vers l'autre micro qui est le numéro 4. Et merci par avance, Laurent, pour la souplesse et la fluidité de la démarche. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Et effectivement, je me suis rendu compte, mais voilà, c'est comme on le dit souvent, ce sont les joies du direct. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas l'opportunité de faire du montage, vous voyez ce que je veux dire, et de se dire comme sur les podcasts, ça y est, ça fonctionne, ça marche. Eh bien non, c'est comme ça. Et donc, j'ai dû, dirais-je, un petit peu anticiper cela. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Voilà, et cette fois, effectivement, la voix est bel et bien au rendez-vous. Alors, Dominique, on se le disait un petit peu hors antenne, on va partager en quelques souvenirs de ce que fut Samedi est à vous, l'émission. Alors, en prenant comme ça un petit peu pêle-mêle, des souvenirs télévisuels de celui qui était justement le samedi après-midi en train de perdre 4 heures de son temps, ou presque, grand désespoir des parents, pour regarder une émission de télévision.
Mais c'est ça, en ce moment, surtout au mois de mai, en ce moment, je regarde mes week-ends, mais c'est blindé, j'ai fois des fois, j'arrive à avoir une demi-heure de libre pour qu'est-ce que je peux faire entre 15h et 15h30, mais c'est blindé entre toutes les fêtes, les festivals, les concerts ou je sais pas quoi, enfin, ou les expositions en ce moment. Mais quand on était petit, mais on n'avait rien à faire, quoi. J'en avais peut-être des potes qui allaient faire du sport ou je sais pas quoi le samedi après-midi, mais non, même si on nous proposait de faire quelque chose, t'as pas envie de t'inscrire au club de sport? Non, je peux pas, j'ai la télé, 14 à 18h, et c'est tout, quoi.
Et alors, quelles sont les séries, parce que ça va être un petit peu le leitmotiv, les séries peut-être, une série marquante?
Ah, c'est très difficile. Chapeau melon bête de cuir, peut-être. Il y en a tellement. Quelle série on n'a pas vu dans cette série?
Si on devait faire le bilan de tout ce qu'on aurait pu...
On aurait plus vite dire quelles séries ne sont pas passées dans samedi après-midi sur TF1.
Ou peut-être imaginer ce qui aurait été un samedi est à vous, une est à vous idéale, si on avait rajouté toutes les autres séries qu'on connaissait déjà et qui auraient pu être intégrées.
Ça aurait été un autre titre. C'était le week-end est à vous, je pense. Parce que là, samedi est à vous.
Effectivement, c'est le temps qu'on aurait eu pour, profiter de ce programme. Alors, Laurent, de ton côté, lorsque tu as découvert Samedi est à vous, puisqu'on est... Alors, autour de la table, il y a la génération de ceux qui ont découvert l'émission des années 70, et puis ceux qui ont découvert La Une est à vous lorsqu'elle est revenue sur le devant de la scène à partir de septembre 87 sur TF1. De ton côté, Laurent, quelle est vraiment l'émission, la série qui t'a le plus marqué à l'époque de La Une est à vous et de Samedi est à vous, années 70?
Alors, effectivement, moi, au milieu des années 70, j'avais 10 ans, donc j'étais pile poil dans la cible, et c'est vrai qu'il y avait un désert au niveau télévisuel, puisqu'en fait, il y avait très peu d'émissions consacrées à la jeunesse. Et si j'ai cité une des séries qui m'a vraiment marqué, c'est Les Mystères de l'Ouest, qui était juste remarquable et très avant-gardiste, avec ce côté un peu cyberpunk ou empreint de Jules Verne, je dirais. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une consécration. Et on peut dire que le fait de venir durant ces 4 heures devant sa télé, quand on avait 10 ans, c'était magique. On avait des rendez-vous, on avait le mardi soir où il y avait un film d'aventure, ça peut être David Croquet, Tarzan, etc. D'ailleurs, c'était le premier Tarzan où en fait il ne parlait pas pendant tout le film et c'était très très compliqué de s'identifier. Et puis après ça, il y avait le programme du samedi soir avec Dallas, avec donc la réunion familiale. Et le samedi après-midi, effectivement, La Une est à vous, avec la possibilité, l'interactivité avec donc les gens qui assistaient au programme, de pouvoir voter. On n'a jamais su si les votes étaient réalistes ou non, hein, puisque c'était SVP 11-11. Et donc,
on peut essayer SVP 11-11 en direct, on voit si ça marche.
Et donc, finalement, l'interactivité avec les téléspectateurs est assez rare maintenant, finalement. Bizarrement, il n'y a plus ce rendez-vous, cette consécration. Je dirais presque que c'est une religiosité de la télévision qu'on n'a plus, puisqu'on est plutôt dans la surconsommation, hein, même si... Je ne suis pas celui qui dit « c'était mieux avant hein. », ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a, je dirais que trop de choix, tue le choix. Et là, en fait, il y avait la possibilité de découvrir des nouveaux programmes, découvrir des séries des années, des séries américaines, et on découvrait ça avec Cosmos 1999, par exemple, c'était juste un monument au niveau de la science-fiction. Et pour moi, qui avait, avec mes yeux de 10 ans, j'étais émerveillé. Et c'est vrai que les parents, finalement... franchement, ils nous disaient, mais t'as pas envie d'aller jouer dehors, etc. Et nous, on faisait nos provisions de bonbons et de nuts et de mars, et on s'asseyait devant l'écran et on était ravis, et c'était pendant 4 heures un énorme plaisir, quoi. Enfin, c'est...
Moi, ma mère se désespérait parce que, bien sûr, après avoir vu un épisode Mystère de l'Ouest avec les copains que faisait-on, on allait refaire les bagarres à la James West dans le jardin. Et généralement, il y avait quelques plaies et bosses parce qu'on n'est pas forcément le talent des cascadeurs sollicités pour ces séquences d'action. Ouais. Pierre, samedi est à vous, l'année est à vous, à mi-chemin entre les années 70 et 80, et c'est naturel parce que toi, tu es dans la. Bon, t'es un petit peu plus jeune, quoi.
Voilà, je suis né au milieu des années 70, en 74, et j'ai pas de souvenir vraiment de. Le samedi a été à vous, mais plutôt ce qui a pris la suite, c'est resté donc avec nous le samedi, qui était aussi donc un samedi après-midi rempli de séries diverses et variées, sans le vote du public à l'époque. Puis bon, à l'époque j'étais trop petit, je vois mal mes parents m'accorder de téléphoner à SVP 11-11. Et un souvenir, une série dont je me souviens, c'est Gemini Man, Les Nouvelles Aventures de l'Homme Invisible. Ouais. Celui avec sa montre, là, Ben Murphy.
Avec Ben Murphy.
Ouais, ouais. Ça, oui. Ça, c'est un souvenir
assez exceptionnel parce que, comme il pouvait rester visible uniquement 15 minutes, on savait qu'à la fin, c'était 14 minutes 59. On se disait, est-ce qu'il va réapparaître et finalement, il réapparaissait.
Exactement. Ça, et puis, si je me souviens bien, dans cette période-là, il y avait aussi des petits dessins animés pour les gamins. Et je pense qu'on a découvert, je le confirme avec Christophe, du Maya l'abeille à l'époque, sur l'après-midi, samedi, et restait donc avec nous le samedi, etc. Donc je ne restais pas forcément tout le samedi après-midi, mais j'ai découvert pas mal de choses. Et ça fait partie aussi de la culture, comme tu disais, Christophe, télévisuelle importante.
Christophe ?
Oui, alors comme tout le monde, moi j'ai grandi avec la télévision le samedi après-midi. Alors, quel que soit le nom du programme, hein, parce que effectivement là, on va parler des émissions pour lesquelles on pouvait choisir. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le samedi était un créneau, en tout cas le samedi après-midi, où il y avait, on proposait des choses aux téléspectateurs. Et pour citer une émission que tout le monde connaît, c'est l'arrivée dans les années 80 de Temps X, qui a été aussi diffusée le samedi après-midi, donc dans laquelle on a pu aussi retrouver des séries. Alors donc moi, je n'ai pas connu la version des années 70. Par contre, la version des années 80, j'en ai mangé. et parmi les séries que j'ai découvertes à l'époque, je pourrais en citer deux. Les Bannis, qui est une série des années 70, enfin même peut-être 69, j'ai un
doute.
Qui est une série western assez sympathique. Et puis Stingray, avec Nick Mancuso. Oui. C'est une forte sympathique série. Voilà, pour en citer deux, hein, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres.
Dominique ?
Moi, j'ai une petite question. En fait, c'est vrai que, oui, nous, on mélange un petit peu. Quand je vois la liste des séries, ce qui passait, ce qu'on a vu dans les années 70-80, je suis incapable de dire si elle dirige les
vieux.
C'est très difficile. Mais je me demandais, je vais faire appel à vos connaissances, est-ce qu'il y a des séries qui ne sont passées que dans cette émission des Sapins Hybrides? Parce que si je dis Columbo, etc., ou même il y a des séries qui sont passées sur toutes les autres chaînes, etc., rediffusées. Mais des séries qu'on aurait pu voir que dans ces créneaux-là.
Des séries françaises, peut-être
Moi, je pense qu'il y a Les Envahisseurs qui a remplacé après le sixième. Enfin, c'est Les Envahisseurs qui ont remplacé le sixième sens, mais je ne pense pas qu'après, elle ait fait l'objet sur une autre chaîne
Alors, en fait, souvent, ce qui se passait, c'est que les chaînes achetaient des programmes. Et donc, après, il fallait éventuellement les diffuser. Donc, soit elles avaient déjà été peut-être diffusées pour certaines. Parce que les envahisseurs, je pense que la première diffusion, ça a été hors émission.
Ah, ouais.
Et puis après, il y a des programmes, à l'inverse, qui avaient peut-être été spécifiquement achetés pour ces créneaux-là.
Est-ce que ça servait aussi un petit peu d'émission de test?
Mais justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des séries qui ont été achetées et qu'on a proposé. Alors, je parle pour les années 80, par exemple, dans La Une est à vous. Mais les gens votaient pas pour cette émission, enfin pour ce programme. Du coup, ça a sûrement été aussi par la suite refourgué à un autre moment dans ce.
Quand c'était des unités, un épisode de Columbo, on voit que celui-là, c'est pas grave. Mais il y a des séries où il y a des suites. Enfin, sûrement. Donc c'est difficile de ne passer qu'un ou deux épisodes.
Je pourrais citer une série que j'ai vue à l'époque, qui est pas une grande série, mais qui m'avait marqué à l'époque, c'était Les Aventures de Bean Baxter. C'est jamais repassé nulle part. Donc celle-là, pour le coup, je pense.
Donc on peut être sûr que c'est là.
Ce qui est vrai, par contre, c'est que généralement, c'était les mêmes séries qui étaient plébiscitées et on voyait un peu les résultats à mi-parcours parce que je ne sais plus comment il s'appelait le
Roger Lagou.
Voilà, c'est ça qui nous donnait le scoreage à mi-parcours et généralement c'était les séries comme Mystères de l'Ouest par exemple qui arrivaient en tête et on était tous ravis, on se disait ça y est c'est encore.
C'est logique même si on votait, enfin on aurait revoté pour voir la suite.
C'est vrai que quand il y avait une nouvelle série qui arrivait, le présentateur essayait de nous convaincre qu'il fallait voter pour la voir, au moins pour se faire une idée.
Ils avaient payé beaucoup d'argent à l'époque. Voilà.
Alors à propos de Samedi est à vous, parce que c'est quand même un chantier que on a bien, on a bien travaillé dessus depuis bien longtemps déjà, notamment avec la page Facebook qui est consacrée à La Une est à vous. Et j'en profite pour remercier et saluer Régis Doll qui réalise un travail remarquable. Voilà, on continue comme ça à chercher dans les programmes. Pour ce qui est de Samedi est à vous, l'idée qui domine, c'est que globalement, les séries qui ont été diffusées, que ce soit dans La Une est à vous ou Samedi est à vous, très souvent, elles étaient soit déjà existantes, notamment par exemple les Mystères de l'Ouest, on avait déjà eu 3 fois 13 épisodes qui avaient été diffusés. Mais qu'a fait
ça ? En noir et blanc d'ailleurs.
Et en noir et blanc. Ou bien en couleur, deuxième chaîne couleur quand c'est arrivé en 70, c'est vous dire. Mais qu'a fait Samedi est à vous, La Une est à vous, qu'ont fait pendant ces deux émissions, c'est qu'elles ont popularisé les Mystères de l'Ouest dans des proportions qu'on a du mal à imaginer. L'année 75, puisque c'était il y a 50 ans, c'est l'apogée de Samedi est à vous. C'est-à-dire que c'est peut-être là où l'émission a le plus fonctionné dans son système, dans sa mécanique, dans son organisation. Et les Mystères de l'Ouest, c'était la série qui était plébiscitée chaque semaine. Et je vous prie de croire, oui, il y avait bien en moyenne 20 000 appels chaque semaine à SVP 11-11. Il y avait 26 standardistes qui étaient là pour faire le tri entre toutes les fiches. Ce à quoi il fallait ajouter les personnes qui avaient pris le temps d'écrire parce que Internet n'existait pas pour demander telle ou telle série. Donc, vraiment, les Mystères de l'Ouest, c'est le prototype de la série plébiscitée. Qui est la production qui se soit dit, tiens, on va mettre en avant une série qui a moins les faveurs du public, notamment dans l'épisode d'ouverture, ça servait à ça. Je suis un petit peu désolé de le dire, mais Le Prisonnier, c'est le sort que la série a connu. Parce que Le Prisonnier n'a pas été plébiscité dans La Une est à vous, alors que moi, très souvent, quand je discute, notamment sur Facebook, certaines personnes me disent, ah oui, Le Prisonnier, chapeau en mode de cuir. Puis je leur dis, mais écoutez, Le Prisonnier, non, il n'y a que quelques épisodes qui ont été diffusés.
C'était beaucoup plus clivant aussi.
Chapeau blanc et bottes de cuir n'a pas été un énorme succès. Alors que tout le monde me dit chapeau blanc et bottes de cuir, et les épisodes qui ont été en plus diffusés étaient de très solides factures. Mais il y a un décalage entre le nombre d'épisodes diffusés, donc le succès auprès du grand public, et puis la réalité de ce qu'on se dit 50 ans après. Ah oui, chapeau melon, Le Prisonnier, Non, c'était Anna et le roi qui était le gros succès de 1975. Ça a bien fonctionné. Quand on en parle sur les réseaux sociaux, beaucoup sont surpris. Tiens, c'est bizarre, j'y croyais pas.
Mais oui, parce que on en parle comme si c'était une émission pour les enfants, parce que nous on était comme ça, mais c'était une émission familiale aussi. Peut-être que les familles avaient autre chose à faire le samedi après-midi, mais
Le dimanche qu'il y avait
attention dans l'image un peu rétro, la maman qui fait le ménage, le papa qui bricole, etc. Attention,
c'est plus dimanche Martin qui a marqué les esprits en termes de réunion familiale, je pense.
Alors justement, puisqu'on évoquait quelques séries emblématiques, comment dirais-je, de Samedi est à vous, il y a notamment celle-ci.
«
et je veux croire que vous aurez reconnu la partition musicale composée par Dominique Frontière pour la série Les Envahisseurs, qui est le point commun entre Samedi est à vous et La Une est à vous version années 80, puisque la série a été reproposée à partir de 87. Et il s'avère qu'en 75, Les Envahisseurs ont connu un énorme succès dans Samedi est à vous, mais, il y a un mais, puisqu'on évoquait justement les épisodes et la continuité, bah il s'avère que parfois la production de Samedi est à vous n'était pas toujours très respectueuse des séries. Ça, c'est un mal français. Mmh. Et notamment, il y a un épisode en deux parties qui s'appelle Conférence au sommet. On a vu la première partie, on n'a jamais vu la seconde.
C'est fâcheux.
Voilà, c'est une façon aussi de rappeler que, et Dieu sait que j'ai un énorme respect pour Guy Lux et pour son travail de producteur, mais parfois, la production de Samedi est à vous, il y a quelques critiques qu'on peut lui adresser. Bien et sûr. Avec le recul du temps, on se dit, ben zut, quand même, on aurait pu passer la deuxième partie.
À l'époque, voilà. On était plus petits, je pense qu'on était plus tolérants. Oh, enfin, ouais. On nous bombardait, balançait nous des images avec des gars qui sautent. Voilà. Puis c'est, tout. Enfin, c'est bon. Et des pistolets qui tirent. C'est vrai que maintenant, on est très exigeant en matière de série.
Ça serait inacceptable.
Oui, inacceptable.
Ça serait inacceptable aujourd'hui.
Oui, Christophe. Je voulais juste rappeler aussi, on en parlait, mais la télévision couleur, elle est arrivée de manière un peu progressive, puisque c'était la deuxième chaîne au départ qui était en couleur. Il faut attendre septembre 75 pour que TF1 commence à pouvoir diffuser des programmes en couleur grâce aux canaux de FR3 qui, à ce moment-là, dans l'après-midi, ne sont pas utilisés. Et donc, jusqu'à 18h, on peut voir TF1 en basculant sur la troisième chaîne.
Si tu avais une télé couleur.
Si tu avais une télé couleur, tout à fait. Et donc, on ne s'en souvient pas forcément, mais effectivement, beaucoup de ces programmes ont été vus en noir et blanc.
Alors, là aussi, il y a une série emblématique de l'époque Samedi est à vous que l'on se doit d'évoquer. Et puis, c'est pour faire aussi un petit clin d'œil à Laurent, parce que, bien évidemment, j'ai bien compris que c'était une de ces séries fétiches. En l'occurrence, c'est ceci. Et à chaque fois, ça marche bien. Cosmos, 1999. Alors, Laurent, c'est une série qu'on a découvert en 1975 pour la première fois en France dans Samedi est à vous. Alors là, pour le coup, c'est une série où Samedi est à vous a fait découvrir un programme de science-fiction à la télévision qui a marqué les esprits. Mais alors là, moi, le repère du dragon, épisode qui m'a terrorisé. J'étais planqué derrière mon fauteuil en train de le regarder. Laurence, je sais que cette série, vraiment, elle est très chère.
Ouais. Effectivement, Martin Landau, Barbara Bain, donc un couple mythique, aussi bien la scène que dans la vie, hein, puisqu'ils ont une relation ensemble, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Mission Impossible. Hein. Remarquable.
En pyjama.
Voilà, le 16 septembre 1999, en fait, la Lune quitte l'orbite de la Terre. Et c'est le destin, l'odyssée d'une planète qui est en totale perdition et qui n'arrive plus à retrouver son chemin. Et on va assister à plein d'épisodes. Alors, il y a une deuxième saison qui est, on va dire, moins qualitative, on va dire, que la première. Mais ça reste quand même un monument de la télévision parce que Geir Andersson était quand même quelqu'un qui était... très visionnaire dans son approche et c'est une série qui est vraiment une série de qualité très originale, même si improbable.
Et c'est là où il faut bien le dire, là Samedi est à vous a joué son rôle de tête chercheuse de série télévisée à proposer au public qui ne soit pas connue, qui n'ait pas déjà été programmée. Ça là, il faut bien le souligner, cette mission entre guillemets bien particulière a été clairement assumée. D'ailleurs, j'en profite aussi pour glisser que parfois La Une est à vous a joué avec la légalité. Ils ont notamment diffusé un épisode de UFO comme ça qu'ils ont testé alors qu'ils n'avaient pas les droits. Ça, c'est une longue discussion avec Alain Carazé à ce sujet qui m'a donné quelques précisions en disant bon là, oui, ils ont été chaloupés dans des terrains où la légalité n'était plus du tout au rendez-vous. Bon, voilà, ça fait aussi partie de l'histoire, c'est la légende dorée de la télévision. Mais c'est vrai que pour revenir sur Cosmos 99, en plus de ça, il faut imaginer pour un public, la science-fiction à la télévision française, c'était le parent pauvre. Je veux dire, on ne voyait pas grand-chose. Et là, soudainement, on se prenait des décors, des effets spéciaux.
Surtout les décors, hein, notamment, on parle du faux, là, c'est quand même mention spéciale pour les décors et les costumes.
Ah oui, oui, c'est quand même se dire que le gars qui a fait les effets spéciaux de Cosmos, c'est Brian Johnson, qu'on retrouve après sur l'Empire contre-attaque. Bon, voilà, ça place la barre, vous voyez, hein, la hauteur, là. Non, on a vraiment affaire à une série d'une exceptionnelle qualité. Après, on peut disserter très longuement sur la qualité des scénarios, la dimension philosophique. Moi, personnellement, j'avais beaucoup d'affection pour le personnage interprété par Barry Morse, le professeur Bergman, qui est quand même le grand manque de la saison 2, je veux dire, qu'on a découvert bien plus tard.
Oui, j'étais en train de penser, dans les années 70, les produits dérivés des séries télé, c'était pas très courant. Et qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Il y avait des bandes dessinées, des adaptations de certaines séries, je pense au Mystère de l'Ouest.
Donc c'est Junior.
Et sur Cosmos 1999, je crois qu'il y a eu des Viewmasters. Parmi les choses qu'on a pu avoir, mais voilà, c'était assez limité.
Quand même, les poupées Mego, il y a Mattel qui avait sorti
un aigle.
Le vaisseau est sorti,
ouais. Et puis Dinky Toy avec les aigles, en fait, quand même. Hein.
Et petite précision aussi, toujours dans ce contexte bien particulier, Samedi est à vous avait un tel succès que même Pif Gadget s'était emparé du concept de l'émission pour proposer des bandes dessinées que les lecteurs auraient choisies. C'était donc Pif Gadget associé à Samedi est à vous, et il proposait soit une bande dessinée amicalement vôtre, soit de Manique, soit des Mystères de l'Ouest. Ça a duré un bref temps, mais c'est pour dire l'impact qu'a eu cette émission Samedi est à vous il y a 50 ans sur le public et aussi sur les créateurs à la télévision.
Et d'ailleurs, par la suite, la deuxième chaîne a repris un peu le principe aussi de solliciter les téléspectateurs avec SVP Disney. Ou c'est Disney Dimanche, j'ai un doute tout d'un coup.
SVP Disney.
Ouais, SVP Disney qui passait voilà, Noël et
une fois par an.
Les gens pouvaient voter pour l'extrait des dessins animés Disney qu'ils voulaient voir à l'écran.
Alors je vous propose un petit extrait pour se remettre dans le bain de l'époque. Voilà, Bernard Gollet, Roger Lago en action, on est en 76.
Nous allons joindre Roger Lago à SVP pour faire un premier pointage. Roger Lago.
Oui, Bernard.
Voilà, vous m'entendez.
Oui, je vous entends très bien, et vous?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'en est-il des appels qui affluent maintenant depuis 13 heures? Ça fait déjà un bon moment, il est 15h26-27 dans ces eaux-là.
Oui, Bernard, nous pouvons faire le point. Nos amis ont eu le temps de nous appeler et de demander leur émission préférée.
Bien sûr, tout en conservant bien sûr l'idée de la priorité aux hommes.
Oui, c'est une priorité difficile à tenir, parce que les femmes sont là.
Oui, bien sûr.
Il y a l'égalité des sexes et nous ne pouvons pas faire de ségrégation. Et nous ne pouvons pas empêcher ces dames de nous appeler. Elles sont aussi très nombreuses. Mais enfin, nous avons noté sur compteur, d'une part, les pères, et c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne fête demain, avec beaucoup de cadeaux. Et d'autre part, les moins de 15 ans, hommes et dames, et ensuite, eh bien, les dames. Ça nous fait beaucoup de comptabilité ici, mais enfin, nous la tenons.
D'accord, Roger.
Ce qui nous aidera à avoir leur point de vue dans ces différentes catégories en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les émissions.
Et ça nous aidera beaucoup.
Bon, bien, Roger. Bernard, nous avons aussi beaucoup d'appels nous demandant le jeu. Alors je pense que, honnêtement, nous pouvons avertir nos amis et les téléspectateurs qu'il n'y a pas de jeu aujourd'hui.
Exact, il n'y aura pas de jeu
pour éviter qu'ils encombrent le standard.
Oui.
Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, en ce qui concerne le point sur les émissions, nous pouvons la faire rapidement.
Ah, le point sur les émissions. Alors là, c'était le moment attendu. Que va-t-on voir? Roger Lago, la voix de l'ombre. Ce monsieur, on attendait ses interventions en disant « Vas-y, c'est James West qui va arriver », parce que bien sûr, on n'attendait que cela, mais il y en a d'autres, c'était au-delà du réel. Au-delà du réel. Voilà une série qu'on avait très peu vue, quelques épisodes diffusés, mais alors vraiment à l'arrache en 72, et s'il y a bien une émission qui a donné toute une exposition qui fait qu'au-delà du réel, on reconnaît que c'est une série de qualité devenue culte, c'est bel et bien « La nuit est à vous, puis samedi est à vous ». Ah, ça a été un grand moment.
Et pour faire le lien avec la version des années 80, ça a été la quatrième dimension aussi qui est revenue.
Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est vrai que la quatrième dimension.
Contrôle de votre écran.
Oui, exactement. Ouais, c'était aussi, avec la voix de Jacques Deschamps, c'était vraiment quelque chose d'assez fascinant à entendre. Donc voilà, c'était un petit peu ça aussi le contexte de l'époque, et on se doutait bien qu'il y avait un sacré travail. Même si parfois c'est vrai qu'on pouvait subodorer que l'on jouait un petit peu sur les chiffres pour caler un épisode de 26 minutes parce qu'il y avait une intervention télévisée, genre un petit journal par exemple qui était passé, parce que parfois il y avait des journaux télévisés, et des informations, des petits flashs d'informations qui étaient données, ou bien parfois il y avait des retransmissions sportives aussi. Alors ça, c'était le fléau quand il y avait le rugby. parce qu'il y avait une heure et demie d'émission qui disparaissait. Oui, je me disais bien, Pierre, que tu allais réagir au quart de tour. Mais que veux-tu, quand on devait se taper...
C'était sur la 2 ?
Non, oui, non, non, mais c'était aussi diffusé sur TF1.
Ah ouais, c'est vrai.
Donc, ce qui fait qu'à un moment, tu disais, souhaite, je vais voir Cimarron et le mystère de l'Ouest, et puis, pan, on t'annonçait France Gall.
Ouais. Pas la chanteuse, hein, je précise pour les auditeurs.
C'est pour ça que je l'ai faite, mais... Alors, un jour, ils ont été très malins, et après, je vous laisserai, c'est une petite anecdote comme ça en passant. Ils ont été très malins, et Bernard Gueulet a bien vendu l'affaire. C'était pendant les Netavou en 74, en février. Il y a un match de rugby, et on ne l'avait jamais vu à l'époque, parce que les Mystères de l'Ouest, beaucoup d'épisodes inédits ont été diffusés dans la Netavou et Samedi Netavou. Donc, assez malicieusement, Bernard Gueulet a dit écoutez, voilà, les Mystères de l'Ouest, on a un double épisode. Si vous votez pour cet épisode, dans la série J'oriente, je pousse, on passe la première partie tout de suite, vous regardez le match de rugby, il n'y a pas de clash dans la famille, et on verra la deuxième partie ensuite. Et c'est l'épisode La Nuit de la Terreur ailée qu'on a vu pour la première fois sur une chaîne française. Voilà, ça aussi, c'est, ça fait partie du paysage. Et nous, on était en se disant, bah oui, bien sûr, bah, allons-y. Alors à ce moment-là, le France Gall, il passait mieux, tu vois. Alors, toujours dans cette évocation, à mi-chemin entre Samedi est à vous et La Nuit est à vous, si on glisse du côté des années 80, Dominique, Pierre, Laurent, Christophe... Dites-moi un petit peu s'il y a des petites choses sur lesquelles vous souhaitez un petit peu mettre la lumière, mettre l'accent.
Juste avant, je voulais quand même souligner une différence entre les deux versions. Mmh. C'est que dans la version des années 70, on avait une catégorie dessin animé.
Oui.
Qui a disparu donc
c'est
par
vrai.
La suite.
C'est vrai. Mmh.
Et bon, alors dessin animé, c'était pas encore les dessins animés japonais à l'époque, mais bien que. Donc on a eu Satanas et Diabolo, Titi et Gros Minet, pour citer les plus connus, Laurel et Hardy, Félix le Chat, l'Impantérop, Bugs Bunny. Donc bref, quelques classiques. Et on a quand même eu en deux séries d'origine japonaise, Le Roi Léo et Le Prince Saphir, qui ont fait leur début à cette époque. Voilà, ça c'était pour souligner cette partie.
Il y avait d'autres créneaux, d'autres émissions où il y avait
spécialement dédié aux dessins animés, peut-être.
Alors après, il y a eu, en tout cas, dans la version des années 80, il n'y avait pas de.
Puis après, je pense qu'aussi, j'ai réfléchi, mais toutes ces séries, elles avaient pas forcément, les épisodes n'avaient pas forcément la même longueur. Il y avait des épisodes de 50 minutes, d'autres peut-être de 25 ou 30. Alors un dessin animé qui fait 10 minutes. J'imagine qu'au niveau de la production, il devait réfléchir aussi à ce niveau-là.
Et c'est pour ça que parfois. Certains disent que les votes étaient un petit peu orientés parce qu'il fallait se caler tout simplement à des contraintes de production.
Horaire, voilà, production, bien sûr.
Alors tu évoquais le Prince Saphir. Pardon.
Ah bon, ça a changé de générique.
Non, autant pour moi. Alors, ça arrive. Pas. J'ai bien respecté cette fois le générique du Prince Saphir, hein, Christophe, rassure-moi. Alors, c'est vrai que tu as cité le Prince Saphir, et puis il y a une deuxième grande série aussi qui a été très populaire dans Samedi est à vous, c'est Léo, le roi Lion, qui là aussi a connu un énorme succès.
Le roi Lion,
mais justement, mais voilà, parce que tout le monde dit que ça vient de là, le roi Lion.
C'est un plagiat. En fait, le roi Léo a été diffusé aux États-Unis dans les années 60, donc les Américains connaissent la série. Et puis un jour, Disney a dit tiens, si on en faisait une version à nous, sans demander l'autorisation des Japonais.
Je comprends mieux mon lapsus.
Tous les fans que je connais du roi Lion, de ce monde que je n'ai jamais regarder, je refuse absolument de regarder parce que moi j'ai vu le roi Léo quand j'étais petit et pour moi c'est le roi Léo.
En tout cas sur le Prince Saphir, il faut souligner qu'on n'a jamais revu la version originale depuis les années 40, fin des années 70 et que par la suite ce qui existe aujourd'hui en DVD c'est un autre doublage qui a été fait à la fin des années 80.
Alors, toujours dans cette évocation, parce que je vois que le compteur tourne comme d'habitude avec la vitesse de l'éclair, et après, il faudra quand même qu'on aille faire un petit tour dans l'espace, voir ce qui se passe du côté d'Andorre. Toujours donc dans cette volonté un petit peu de célébrer comme ça les séries, est-ce qu'il y a des petites particularités ? Par exemple, Laurent, une série qui ne serait pas forcément Cosmos 99 ou Les Mystères de l'Ouest, mais qui t'aurait marqué, quelque chose d'un petit peu plus, pas anecdotique, mais inattendu.
Alors moi, il y a Vidocq. Qui m'a vraiment marqué. Alors pourtant, c'est une série française. Claude Brasseur, qui jouait le rôle de Vidocq, hein, qui est donc en plus un morceau de l'histoire française, hein, puisqu'il a vraiment existé. Et ça, ça a été vraiment une des meilleures séries françaises que je mettrais au même niveau que Les Brigades du Tigre, par exemple, qui était aussi de la qualité. Ben, voilà.
Et c'est vrai que... alors, à propos de Vidocq, là aussi, une anecdote. Si tu te souviens bien, Laurent, dans la série Vidocq, il y a quand même un épisode assez dur qui s'appelle Les Chauffeurs du Nord, où les bandits en question martyrisaient leurs victimes pour savoir où était planqué le magot. Et quand l'épisode avait été diffusé une première fois par l'ORTF en 73, il y avait eu des lettres incendiaires, comme pour les rois maudits, pour dire « mais c'est scandaleux, vous rendez compte, ces scènes de où les gens sont martyrisés ». Et là, dans Samedi est à vous, ils ont passé l'épisode sans aucun commentaire. C'est passé comme une lettre à la poste.
Évolution des mœurs.
Et alors là, les gamins de 10-11 ans se sont dit quand même, Vidocq, diable. Bon, mais après, il y avait Daniel Lebrun, magnifique ennemi de Vidocq dans la série, que j'aime beaucoup. Et alors vous, chers amis, dans la version années 80, des petites pépites. Christophe disait Stingray, Nick Mancuso. Et pour toi, Pierre, un petit truc que tu aurais repéré?
Alors, c'est pas un petit truc, mais je suivais beaucoup plus assidûment, et Christophe en a parlé il y a quelques minutes, parce que les premières décisions, je n'avais pas vu. Il faut rappeler quand même que la version des années 80 a permis de redécouvrir la quatrième dimension. Moi, j'ai redécouvert la quatrième dimension avec la lunette à vous des années 80, j'avoue. Et depuis, ben, je suis fan, puisque voilà, il y a l'intégrale chez moi, donc c'est un monument, mais ça a permis aussi... cette période-là, de faire redécouvrir des anciennes séries à un autre public qui ne l'avait pas vu à l'époque.
Christophe, une petite particularité, autre peut-être que ce que tu avais déjà l'occasion de dire à propos de Stingray?
Alors, une, c'est pas une série qui aura marqué forcément les esprits, mais une série anecdotique, c'est Salut les homards, qui était une sitcom française dont la particularité, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous deviez voter pour la suite entre deux scénarios possibles. Et donc, ils tournaient pendant la semaine ce qui avait été choisi. Et donc, c'était aussi une interactivité, mais là, pour le coup, dans une série.
Pierre.
C'était pas produit par Stéphane Collaro?
C'est tout à fait possible.
Il me semble.
Créé par Pascal Brogniaux.
Ah, pardon.
Voilà. Oui, alors ça par contre, oui, tout de suite, pour les puristes de Samedi est à vous, les années 70, quand on évoque Salut les homards, là c'est bizarre, il y a des coups de flingue qui partent. Je peux vous dire que sur Facebook, il y a des fous furieux, des vrais de vrais, quand vous leur dites ça, on a l'impression qu'ils viennent mutants, je veux dire, et qu'ils vont vous assassiner, parce qu'ils trouvent que la Une est à vous des années 80, elle s'est perdue. Et je peux le comprendre, notamment dans la deuxième partie des années 90, où on avait tendance à se dire que l'émission se rétractait en termes de temps disponible.
On va dire que aussi le choix des séries, on n'était plus, on avait peut-être déjà. Enfin, je pense qu'on aurait pu trouver des meilleures séries, mais bon, voilà. Ouais. Donc il y a un mix. Il y a des très bonnes séries qu'on a vues aussi dans les années 80, mais il y en avait
des aussi. Donc,
on a une chaîne privée. Oui.
C'est vrai que là, c'est à ce moment-là que la 5 et la 6 ont pris leur envol. 86, 87, 88. Et là, en matière de séries télévisées,
c'est la 5 qui a pris le relais.
En tout cas, sur la version années 80, la série qui a sûrement été une des plus marquantes dans cette diffusion, c'est Matthew Stone, puisqu'elle était présente, peut-être pas systématiquement, mais pas loin.
C'était l'épisode d'ouverture obligatoire, entre guillemets, le temps de faire le programme ensuite. Dominique ?
J'allais partir, on est alors, un truc où il n'y avait pas trop de cascade ou quoi que ce soit, un petit pause café.
On était
tous amoureux.
C'est parce qu'il y avait Véronique Jeannot.
Voilà, ça se passait. Moi, on était au collège et puis ça se passait au lycée, si je n'ai pas dit. Peut-être quand je serai au lycée, il y aura aussi.
Il y avait un grand rendez-vous aussi que j'aimais beaucoup le dimanche après-midi. C'était Thunderbirds, quand même, qu'il faut citer, qui est juste un monument qui a enchanté toute une génération, je pense, parce que. C'était quand même des marionnettes. On ne parlait même pas d'humains. Donc c'était des marionnettes, mais avec la possibilité de découvrir un autre univers que celui qu'on avait l'habitude de voir dans d'autres séries. Et puis, une série que moi je trouve culte, c'est L'autobus à Impérial. qui est quand même un monument de notre génération.
Voilà, les envahisseurs de la planète 7.
De toi, Christophe.
Les envahisseurs de la planète 7, ça, oui. Ça. Glouton terrorisé par le cosmonaute qui lui envoie des bonbons au chocolat comme arme de guerre. Mais tu le citais, et à raison, Laurent, l'autobus impérial et Lady Penelope, les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, ça aurait très bien pu être intégré dans Samedi est à vous, hein, je veux dire.
C'était tout à fait le bon public, sûr, ça.
Je pense que si l'émission, parce qu'elle a été brutalement stoppée pour des raisons...
Alors, lesquelles? Parce que tu spoiles pas depuis tout à l'heure, tu peux dire. Maintenant, il y a la transcription 50 ans après.
Bah, écoute, il y a une baisse, quand même, de la qualité du programme.
Assez curieusement, ça pouvait encore durer au moins un an ou deux, mais il y a de la politique qui s'en est mêlée, et ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, parce que moi-même, je me suis posé la question... qui est une forme de lassitude, même de la part de Bernard Gollet, qui d'ailleurs, pendant l'été 76, a quitté un temps pour raison de mariage. Voilà, je le dis comme ça en passant. La présentation de l'émission, avec Sophie Darrel, au point que ce soit Roger Lagot qui le remplace, montre qu'il y avait peut-être une usure, mais il savait déjà à l'époque que l'émission allait s'arrêter à la rentrée. La décision a été prise au mois d'août 76 de dire c'est tout, on arrête. Voilà. Et ça a été décidé pour des raisons qui sont peut-être aussi liées au statut de Guy Lux, à l'importance qu'il avait à l'époque. C'est ce qu'on appelle l'animateur-producteur. Ouais. D'autres étaient dans le collimateur, comme Armand Jameau. On découvre même qu'un certain Jean-Christophe Averty est allé se plaindre auprès de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, pour dire « Mais vous vous rendez compte, cette télévision où ce sont les animateurs-producteurs qui monopolisent l'antenne, c'est inadmissible. » Il y a des choses comme ça qui commencent un petit peu à circuler. Il y a eu un rapport aussi d'un sénateur qui s'appelait M. Cailleret qui dénonçait effectivement ce statut animateur-producteur. Et en fait, le souci, c'est que Guy Lux, peut-être qu'il en a trop fait. Parce que il y a un petit truc comme ça, puisqu'on Laurent évoquait à juste titre le dimanche. Figurez-vous qu'il y a un moment, on a demandé à Guy Lux de s'occuper aussi du dimanche après-midi.
Et il donc, a pris le relais après dimanche, après Jacques Martin en 77.
Ouais. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on avait samedi après-midi Guy Lux, dimanche après-midi Guy Lux, plus Cadet Roussel, Domino et Dieu sait quelle autre émission de variété en semaine. Voilà, et c'est à ce moment-là que, quelque part, alors le terme complot serait peut-être un peu exagéré, mais il y a une forme de machinerie qui s'est fomentée, qui s'est organisée pour éjecter l'émission, qui a été arrêtée brutalement. Je revois encore
87,
Bernard Gollet.
Si je me souviens bien.
En octobre 76, le 16 octobre, c'est terminé. 15 jours auparavant, on voit Bernard Gollet qui est en train de discuter avec quelqu'un, qui annonce que l'émission, en 15 jours, va s'arrêter. Sans explication aucune. Mais la réalité, c'est celle-là. Elle est assez complexe, elle est liée à des évolutions politiques et sociales.
Guy Lux, en plus, il avait, si je me souviens bien, dans la chronique, dans l'ordre chronologique, il avait ses Ring Parade sur Antenne 2.
Oui,
exactement, en plus d'émissions de variété. Donc pourquoi ça gênait
et en plus de ça, parce que justement, il y a une surprésence de certains animateurs-producteurs.
Actuellement.
Bref, donc c'est autre époque, autre débat. Mais en tout cas, voilà, il y a une dimension vraiment politique dans l'arrêt de Samedi est à vous, ce qui est assez étonnant. C'est la personne de Guy Lux qui quelque part était visée. Maintenant qu'ils soient en partie aussi responsables de cette situation en étant omniprésents, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Voilà, donc c'est pour ça que cette émission s'est brutalement arrêtée. Alors pour l'anecdote, puisque tu es venu avec quelques arguments type Télé 7 jours et autres téléstars, l'émission qui a embrayé tout de suite dès le 23 octobre, qui s'appelle donc Restez donc avec nous le samedi, présentée par Denis Fabre avec Guerre Simor qui va arriver un petit peu après.
Et parfois Pierre Douglas.
Il y avait Pierre Douglas au début, effectivement, après ce sera Michel Denisot.
Et le Kaléidoscope.
Le Kaléidoscope. Cette émission n'a pas pu être improvisée. Elle avait été préparée de longue date. Et là, on découvre le nom d'Eliane Victor. Or, Eliane Victor, certaines interviews, Guy Lux la pointe comme étant celle qui a quelque peu ourdi cette machination.
C'est la femme d'un ministre ou d'un député?
C'est surtout quelqu'un qui, comme par hasard, avait déjà proposé une émission qui s'appelle Restez donc avec nous le mardi. Oui. Et c'est devenu après Restez donc avec nous le samedi. Donc il y avait le mardi et le samedi.
Tu prends les programmes télé, c'est décliné tous les jours maintenant, l'après-midi avec Jean Berthaud.
Voilà, exactement. Il y a tout un contexte qui fait que cette émission a brutalement disparu dans des circonstances quand même que l'on peut regretter. Mais c'est ainsi, ça fait partie du paysage français.
Petite anecdote concernant les programmes des années 70. On a eu un journal, je ne sais pas si vous avez connu ça, qui s'appelait Télégadget, qui a démarré en 71 et qui se voulait en fait un programme télé, mais avec un gadget. Et ça a été... ce qui a inspiré par la suite Pif Gadget pour faire de la même chose.
Voilà, donc ça fait aussi partie du paysage. Alors sur ce, Moi, je pense qu'avec cette émission, on a essayé de rendre un modeste hommage à notre façon, à Samedi est à vous, et ce que ça a pu représenter. Dans quelques instants, car il nous reste un quart d'heure, il faut que l'on évoque la série télévisée Andorre. Hein, ça, c'est important de pouvoir tenir le sommaire que nous avons annoncé. Et puis, ben, j'espère en tout cas que cette petite évocation vous aura plu, aura été un bon moment, une espèce de grande Madeleine de Proust. Voilà. Et puis, ben, peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire une prochainement, allez savoir. Puis comme ça, on pourra encore marquer les époques, les années 70 et 80. En tout cas, on l'espère pour votre plus grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois de séries télévisées et ce sera Andorre, la saison 2. À tout de suite.
Série, une émission à ne manquer sous aucun prétexte.
Nous le souhaitons en tout cas. Sur ce, donc, dernière ligne droite, Pierre, Dominique, pour évoquer ce qui est actuellement proposé par la plateforme Disney+, en l'occurrence la saison numéro 2 de la série télévisée Andorre. Et Pierre me disait hors antenne, attention, c'est dur. C'est pas tout à fait du Star Wars auquel on pourrait penser. Enfin, c'est un univers assez sombre. Il est question d'espionnage, de contre-espionnage, de résistance. Voilà, c'est en tout cas une série qui t'a profondément plu.
Oui. Alors, j'avais parlé déjà il y a quelques mois de la première saison, ça m'avait plu. La deuxième saison est arrivée, j'avais vu la deuxième saison lors de sa première diffusion, c'était en 2022, je crois. Donc je me suis refait la première et j'ai enchaîné sur la deuxième. Alors la première pose les bases, on va le dire, hein. On retrouve les personnages, la fin, je ne vais pas spoiler l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on les retrouve nos personnages 2 ans après la fin de la saison 1. Bon, voilà, là, on va dire que là... L'Alliance Rebelle commence à prendre forme par des groupuscules un peu à droite à gauche qui sont pas d'accord, comme tout mouvement de résistance. On ne sait pas, certains personnages, on ne sait pas pour qui ils roulent. C'est de l'espionnage, contre-espionnage, du contre-contre-espionnage. Il y a le moment où on a des doutes.
Pour eux-mêmes.
Pour eux-mêmes, etc. Et ça remet en doute leurs convictions. Je pense notamment au personnage de la sénatrice Mon Mothma, qui est bien connue des fans de Star Wars, qu'on voyait déjà dans la saison 1 et qu'on voit dans Rogue One et dans le Retour du Jedi. Oui, franchement, c'est une série, alors, qui m'a réconcilié, entre guillemets, avec Star Wars dans le côté, l'envers du décor de la rébellion, comme j'avais beaucoup apprécié Rogue One à l'époque en salle. C'est une série qui m'a fait penser, à la résistance française, par certains passages, puisque le showrunner Tony Gilroy, qui a quand même écrit House of Cards, hein, c'est pas un manchot, le monsieur, a déclaré avoir... ils ont créé pour la saison 2 une planète inspirée de la France, donc la planète Grossan, c'est ça, Grenade, je sais plus le nom exact, bon bref. Et des comédiens français ont travaillé sur cette série, et certains passages... Tony Gilroy a été inspiré pour les écrire parce que pendant le confinement, il a vu la série française Un village français. Donc ces scènes qui se passent sous des alcôves où ça discute discrètement des opérations à mener, etc., contre l'Empire, voilà, c'est franchement très bien. Et je voudrais dire aussi qu'il y a certains passages, deux, trois scènes dans cette série, je vais aller loin, en parlant de la résistance, qui m'ont fait penser à l'Armée des Ombres de Melville, dans certains actes qui se passent, c'est, voilà, deux, trois trucs, c'est quand même pas mal. L'interprétation est bien, est sobre. Je trouve que l'actrice qui incarne Mon Mothma
Johnny Avorelli mériterait d'être nominé aux Emmys, comme Denis Coff, qui fait une impériale, j'appelle sur sourire, elle sourit jamais, là, la blonde, là, elle a, oh là là, très, un physique terrible.
C'est amusant parce que tu la vois sur, dans des photos où elle est représentée
très souriante,
dans le civil.
Et là, tu la vois.
Elle adore cette fille, mais sur la. Ah, attends, avec la.
Et un dernier mot, il y a une, je pense que Dominique, tu es d'accord avec moi, il y a une direction artistique sur cette série monstrueuse. Les décors, les environnements impériaux où tout est blanc, symétrique, etc. Franchement, il y a du très très bon travail.
On n'est plus surpris, surtout quand on est dans le pouesté, quand on a vu Mandalorian qui arrivait avec une nouvelle direction artistique. Ça, les mecs, ils font plaisir, quoi. Puis et là, c'est pareil, quoi. Limite, Andor, on peut le regarder, même si on n'est pas fan de Star Wars, même si on n'aime pas Star Wars.
Oui, bien sûr.
Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul sabre laser ou quoi que ce soit.
Du tout.
Que ça parle un peu de force, et encore, même pas la. Et encore. Enfin, c'est vraiment, ça pourrait être dans un univers complètement différent. Mmh. Moi, quand j'ai entendu parler Andor, mais il se trompe, c'est Endor, le nom de la planète. C'est le nom du personnage principal, Cassian Andor, qu'on suit pendant toutes les aventures, et qu'on retrouve. Moi, j'avais vu Rogue One donc, il y a longtemps. Rogue One, c'est 2016, je crois, c'est pas de bêtises. J'avais complètement oublié. En plus, c'est le personnage qu'on voit pas ailleurs. C'est ça qui est bien dans Andor. Et effectivement, j'ai regardé la première, puis la deuxième, et j'ai re-regardé Rogue One après. Je dis, ah, mais oui, il était là et tout. Mais oui, en fait, j'ai eu un trou noir pendant toutes ces années ou quoi. Et c'est super intéressant. En fait, c'est une espèce de préquel sur un très très bon film et où ça met. Enfin, en vrai, on voit la naissance de la rébellion. Mm-hmm. On ne sait pas d'où ça vient, etc. Et c'est une bonne façon. Plutôt que de faire un film comme Solo, par exemple, où il nous raconte l'origine, dont on se fout complètement. Enfin, ce qui est bien, c'est le mystère, justement. Là, on découvre plein de choses et il rajoute plein de choses. Ce que j'aime bien dans toutes les séries dérivées de Star Wars, c'est qu'on trouve plein de choses. Voilà, on voit la vie cachée des Mandaloriens, on voit la vie cachée de telle race qui est sur une planète qu'on voit. 10 secondes dans un film, on en sait plus. Et effectivement, et tu parlais de toute la série sur la deuxième saison sur la résistance, mais c'est incroyable. Mais oui, quand t'es français, tu retrouves des trucs. T'es un peu à l'école. Ou t'as vu quelques films ou séries sur la résistance, tu retrouves plein de trucs. Et puis, oui, c'est les Gorman, c'est ça.
Gorman,
et les habitants, c'est les Gorman. Et effectivement, donc, qui parlent une espèce de dialecte local. Qui
est complètement créé.
Complètement créé.
Pas improvisé.
Alors, tu vois les acteurs français, donc, qui parlent le Gorman avec l'accent français. Il y a des acteurs d'autres nationalités qui parlent avec leur propre accent. Donc, c'est un mélange de. Néerlandais, français, ou peut-être du berrichon, dérivé du ch'ti, ou je sais pas quoi, je sais pas. Et tu vois qu'ils se battent, qu'ils ont appris leur truc par cœur et tout. C'est vraiment un voyage aussi bien sur une planète que intérieure, quoi. Vraiment, et puis tu sais ce qui va arriver, tu sais que tu peux rien faire, t'assistes à des événements, tu peux rien faire. Et c'est absolument terrible. Et tu vois, à quel que soit le niveau, que ce soit la sénatrice ou les combattants qui sont en plus qui se retrouvent vers la fin, ils mènent des combats, ils doutent, ils sont dans le doute, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que ça vaut le coup de continuer, et pourquoi je me bats, et pour qui je me bats, et contre qui je me bats, je me bats, et puis après on est dans le même camp, puis après on redevient ennemi, et puis lui c'est mon meilleur ami, mais c'est pas grave, je sais qu'il va mourir, mais je suis obligé de. Ah, c'est impressionnant comme.
L'écriture est très bonne aussi.
Ça pourrait se débrouiller au Moyen-Âge, comme à n'importe quelle époque, je sais pas, mais c'est impressionnant. Et le c'est vrai que c'est dans l'univers de Star Wars, mais bon.
Non, moi, en plus, quand on regarde, j'ai essayé de pas être spoilé par Internet parce que ça. Et après, j'ai regardé, elle est très très bien notée sur les fameux sites américains Rotten Tomatoes et puis je sais plus d'autres. Elle est très très bien cotée. Ils ont même fait un classement des épisodes. Ça a des moyennes de vote.
L'interprétation, la musique, les décors, enfin
très bien. Franchement, je recommande vivement.
On en parlait un petit peu en antenne. Moi, je m'attendais. Alors effectivement, à chaque fin de saison, tu as dit qu'ils avaient prévu 5 saisons.
Au tout
à
début,
la base.
5 saisons. Oui.
Effectivement, quand à la fin de la première, tu te dis, bah, ok, j'attends la deuxième. Moi, je suis à la fin de la deuxième. Et la troisième. Du coup, j'ai fait comme beaucoup de monde. J'ai regardé Rogue One.
Exactement.
J'ai retrouvé tous les personnages. Mais ah oui, je comprends. Et la troisième saison, elle va faire quoi ?
Il n'y en aura pas.
Non, même pas avec le droïde. Ils vont. Ok.
Ah bon, non, parce que non, le droïde, non, Rogue One.
Ils vont en faire une troisième.
Non, c'est cartonné.
Justement, à ce sujet, Pierre, on en parlait là aussi hors antenne, c'est les prolongements de Star Wars au grand écran. Parce que là, il y a une offre télévisuelle d'une telle richesse à travers toutes les séries qui ont été proposées, qu'on se pose maintenant la question de savoir, mais que vont-ils proposer au grand écran, puisqu'il y a ce grand débat, et ça commence à se préciser. Il y a des pistes, il y a des informations, il y a du concret avec Ryan Gosling. Que vont-ils faire ?
Alors, ça a été annoncé de façon.
Meilleure qualité que les films, d'ailleurs.
Pardon ?
Qui est parfois de meilleure qualité que les derniers films qu'on a pu voir sur Star Wars.
La conclusion de la série Vedette, on dirait Mandalorian. rien. C'est au cinéma l'année prochaine. Tout le monde a un gros goût. Donc ce sera en salle. Je pense qu'il y aura aussi alors une partie de la série Ashoka, parce qu'elle a fait partie. De sachant qu'il y a une saison 2 d'Ashoka qui a été annoncée aussi. Le film avec Ryan Gosling, c'est dans 3 ans, je crois. 2 ans ou 3 ans, réalisé par Sean Levy. Et qui se passera 6 ou 7 ans après l'épisode 9, un film avec une histoire unique, donc Star Wars Starfighter, voilà, comme une Star Wars Story, comme ils disent, un film unique. Et il y a bien entendu une nouvelle trilogie avec le personnage de Rey, un nouvel ordre Jedi qui se passera 10 ou 15 ans après l'épisode 9. Voilà où ça en est. On peut dire que bon, le film The Mandalorian et le film avec Ryan Gosling, c'est bien signé, c'est dans le dur, hein. On a vu des épreuves, tout ça. Film Mandalorian, les photos de tournage, il y a Sigourney Weaver qui joue dedans d'ailleurs. Elle fait Avatar et elle fait ça, elle prépare sa retraite, c'est bien.
C'est une retraite singulièrement active.
Bien sûr, oui, un peu comme Christopher Lee à la fin de carrière, tu vois, qui fait Star Wars et puis Seigneur des Anneaux. Mais voilà, donc après, en série cette année, il n'y en a plus d'autres. J'ai pas souvenir, à part Ashoka saison 2 l'année prochaine en série télévisée, une série animée l'année prochaine aussi. Mais après, il manque pas d'idées. Et puis il y a tellement.
Quand je vois la qualité visuelle des séries télé, alors que c'est assez. Petit écran que tu les regardes, etc. Je sais pourquoi je paierais je sais pas combien d'euros.
C'est ça, moi, c'est ça qui m'inquiète.
Allez, deux heures et demie si je suis bien servi, alors que là, pendant 6 ou 7 heures, je sais pas, j'ai un spectacle incroyable. Quoi.
C'est mon inquiétude, je me dis, mais est-ce qu'on aura encore envie d'aller voir Star Wars au cinéma, grand écran, quand bien même ce soit en IMAX, en IMAX, avec toutes ces séries télévisées qui sont proposées sur les plateformes et avec des télévisions qui désormais ont des normes, enfin, qui font que
ce Mandalorian, au niveau
ça me dit à vous, est bien loin en matière d'écran de télévision.
Le Mandalorian, vu de la qualité de la série, je pense que la conclusion au cinéma peut être bien, peut être sympathique. Il y a eu un grand public pour le Mandalorian.
Andor, pour venir sur la qualité, et encore, moi, je les ai dévorés, mais sur un petit écran d'ordinateur en mangeant le matin, etc. Donc, et j'en ai eu plein les yeux. Enfin, il n'y a pas que l'aspect visuel qui m'a séduit.
La suite au prochain épisode. Et c'est ainsi que se termine le magazine des séries. Laurent Duhamel, un grand merci.
Merci à tous, merci.
Et puis, également un grand merci à Dominique Candeille, Pierre Godon, Christophe Villard et Christophe Dordain. Vous accompagnez pour cette édition du magazine des séries. Nous terminons avec quelques notes de Mission Impossible, un des grands succès là aussi de Samedi est à vous. La semaine prochaine, retour au 7e art avec Cinéma Mété Comté, une émission consacrée à Val Kilmer. On voulait lui rendre un hommage, on aura l'occasion de le faire samedi prochain. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine, au revoir.